354-8269 ou visitez videohommage.com.
L'actualité, notre passion, votre quotidien. Avec François Tremblay, c'est Bonjour Montmagny. Les actualités, Cogeco Nouvelles.
Le mercredi 30 avril, ici Stephen Zerbinski. Voici les nouvelles. Eh bien, les forts vents avec des rafales de 90 à 100 km à l'heure ont provoqué plusieurs pannes de courant au Québec depuis hier. Au plus fort de la panne hier, près de 130 000 abonnés étaient touchés. Ce matin, les régions les plus problématiques sont les Laurentides, la Montérégie, Laval, l'Outaouais et Montréal. Et par ailleurs, les vents violents qui ont soufflé sur la grande région de Montréal hier en soirée ont notamment provoqué la chute d'un arbre qui s'est écrasé sur un adolescent sur le boulevard Grande Allée dans le secteur Hunsick vers 20 heures. Les services d'urgence ont réussi à secourir le jeune homme qui est demeuré conscient, tout au long des manœuvres visant à lui venir en aide. L'adolescent se trouvait dans un état critique au moment de son arrivée à l'hôpital. Par ailleurs, les vents ont causé des dommages dans plusieurs secteurs, notamment aux fils électriques qui ont cédé sous le poids de branches fracassées. Le statut minoritaire du nouveau gouvernement libéral se confirme. Le dépouillement des urnes démontre que les libéraux se retrouvent avec un maximum de 169 circonscriptions, alors qu'il en aurait fallu 172 pour obtenir la majorité. Les conservateurs obtiennent 144 circonscriptions, les bloquistes 22, les néo-démocrates 7. On peut s'attendre, bien sûr, à ce qu'il y ait des recomptages dans certaines circonscriptions où les résultats ont été très serrés. Et les attentes sont grandes, notamment pour le maire de Québec, Bruno Marchand, envers le gouvernement libéral de Mark Carney. Il est impatient de voir se concrétiser les promesses du premier ministre Mark Carney pour la grande région de Québec. Le maire Marchand espère notamment la bonification du financement du projet de tramway et des enveloppes pour construire du logement. On l'écoute.
Là, c'est M. Carney. Les relations sont hyper bonnes. On est, je pense, on a de bonnes affinités. Fait que je pense que c'est bon pour la ville. On s'attend à ce que, comme M. Duclos l'avait promis, que le financement fédéral dès 2026 suive à la hauteur du 40% attendu. C'est une bonne nouvelle pour d'autres projets. On a discuté, M. Carney et moi, on a une priorité sur le logement. Ils s'en viennent avec un grand plan logement, d'investissement en matière de logement. On en a franchement besoin.
Et au hockey de la Ligue américaine, maintenant, c'est le début des séries éliminatoires pour le Rocket de Laval, la filiale du Canadien de Montréal, bien sûr, ce soir. La troupe de Pascal Vincent se mesure aux Monsters de Cleveland. Jérémy Filosan nous en parle.
Le Rocket est au repos depuis plus de 10 jours et devront rapidement se débarrasser de la rouille, eux qui débutent une courte série 3-5 face aux Monsters de Cleveland, et cette série débute avec deux matchs sur la route. La distance entre les deux villes force la tenue d'une série assez particulière où les potentiels trois derniers matchs de la série seraient disputés à Laval. C'est le jeune gardien Jacob Fowler qui aura l'importante tâche de garder le filet pour le Rocket, puisque Caden Primo, qui a été sensationnel à Laval cette saison, se retrouve à Washington avec le Canadien pour seconder Yacoub d'Aubèche. Pas impossible que Raphaël Harvey-Pinard et Brandon Gignac effectuent des retours au jeu, eux qui se sont entraînés normalement avec les réguliers cette semaine. Les Monsters se sont retrouvés là, eux, en disposant rapidement des Marlies de Toronto en deux matchs dans une courte série de barrages 2-3. Le début du match de ce soir est prévu pour 19h. Jérémy Filosaire, Cogeco Nouvelles.
Et bien sûr, on va surveiller le Canadien de Montréal qui va disputer le match numéro 5 de sa série de première ronde contre les Capitals. Cette fois-ci, du côté de Washington.
Dé par les assureurs. Détails au noah4s.com.
Bonjour Dimitri.
Bonjour Patrick.
Dimitri, j'ai été surpris hier de voir le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, faire une sortie pour dire que, écoutez, faut pas s'étonner que le Bloc ait reculé comme ça quant au nombre de députés parce que c'est éloigné de ses racines indépendantistes.
Oui, et pour plusieurs, la question, puis moi-même inclus, c'est à quelle fin? À quelle fin est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon a fait cette sortie? Après mûre réflexion, ce que je réalise, c'est que la querelle actuelle entre M. Blanchet et M. Saint-Pierre Plamondon, c'est comme deux entrepreneurs qui se disputent l'avenir d'une maison. L'un, Blanchet, veut continuer à rénover. Changer une fenêtre, repeindre un mur, isoler peut-être un peu mieux le grenier. L'autre, Saint-Pierre Plamondon dit « ça suffit ». La maison a été construite pour quelqu'un d'autre, selon une vision qui ne correspond plus aux besoins d'aujourd'hui, puis il veut repartir à zéro, raser et redessiner une nouvelle maison. Pas de retouche, un nouveau départ.
PSPP, il ne veut pas reconstruire par l'intérieur.
Voilà. Et il faut aller en arrière. En 1991, le Bloc québécois a été fondé avec un objectif clair, c'est-à-dire préparer le terrain pour la souveraineté du Québec.
Oui.
Dans 12 mois, le Québec sera en élection. En 2026, là, c'est dans 12 mois, on sera en campagne électorale. Et voici le défi de Saint-Pierre Plamondon. Il fait une promesse, on ne peut pas être plus clair que ça. Il dit, si le Parti québécois forme le gouvernement, son intention est de tenir un référendum au cours du premier mandat. C'est probablement la déclaration la plus limpide d'un chef péquiste depuis très longtemps. Habituellement, on parle de conditions gagnantes, conjoncture favorable, on dit on va trouver le moment opportun. Mais cette fois-ci, Paul Saint-Pierre Plamondon, il mise tout. Il dit, nous formons le gouvernement, on tient un référendum lors du premier mandat.
Donc, j'allais te dire, Dimitri, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, là, tu as bien raison. Ses intentions sont claires.
Oui.
Maintenant, la game est un peu différente au fédéral, quand tu es le Bloc québécois puis tu veux te faire élire. Qu'il pense que la stratégie n'était pas bonne, c'est une chose. Mais qu'est-ce que tu décryptes quand tu vois le chef du PQ qui sort publiquement pour envoyer une jambette comme ça à son parti frère, donc à Yves-François Blanchet?
Bien, lui, il perçoit le contraire. Dans 12 mois, il sera en campagne électorale en promettant que s'il forme le gouvernement, il va déclencher un référendum et faire du Québec un pays. Donc, hier, Yves-François Blanchet a proposé une trêve partisane avec les autres partis fédéraux. Oui. Pour favoriser la stabilité parlementaire, faciliter les négociations avec les États-Unis. M. Blanchet, pendant le débat, dit « Monsieur Carney, vous ne m'avez même pas encore appelé. » Puis là, les deux, M. Carney lui a donné son cellulaire, bientôt on va les voir en selfie peut-être. Donc le point de... Puis je comprends en partie ce que M. Saint-Pierre Plamondon est en train de dire. C'est « Moi, dans 12 mois, je vais être en campagne électorale » pour convaincre les Québécois de voter pour le Parti québécois en promettant un référendum. Puis là, j'ai François Blanchet à Ottawa, qui a une trêve partisane, qui exprime sa volonté de collaborer avec Mark Carney.
Oui.
Autant que le Québec ait respecté la laïcité, l'immigration, langue française. Donc, ça va à l'encontre de l'objectif politique de Paul Saint-Pierre Plamondon dans 12 mois, parce que pendant ce temps, la perception, c'est... Le Bloc est à Ottawa avec une trêve, travailler avec les fédéralistes et trouver des compromis. Donc, c'est au tout début, tu te souviens, j'ai dit, un veut rénover jusqu'à temps de construire quelque chose de nouveau, mais l'autre dit non, on arrête de rénover. Ça ne fonctionne plus.
Ça me fait penser, cette chicane-là, un peu, Dimitri, là, ça me fait penser à la chicane dans la grande famille conservatrice que tu connais bien. Je veux dire, là, il y a des conservateurs fédéraux qui sortent pour planter Rob Ford, qui est un conservateur provincial de l'Ontario, et l'équipe autour en disant, vous nous avez fait des jambettes tout au long de la campagne. Là.
À un moment donné, quand on fait partie d'une famille politique, essayons de s'aligner en privé.
Ben, c'est ce que j'allais dire.
Parce qu'à la fin de l'exercice, ce que les Québécois, surtout ceux qui ne sont pas des souverainistes purs et durs, se disent, ben si ces deux-là ne peuvent pas s'entendre, ça va être quoi un Québec indépendant?
Ben écoute, là, il y aura des différents courants politiques, mais avant ça, je te le dis, j'ai vu ça hier, je l'ai mentionné dans mon tour d'horizon de l'actualité, il y a une heure. Je comprends pas, ça sert qui que les souverainistes se déchirent comme ça. Parlons de Mark Carney maintenant. Là, il est nouveau premier ministre. C'est lui qui va avoir le mandat de diriger le gouvernement. Et là, le vrai travail commence. Là. Chaque décision là dans les prochaines semaines vont être importantes et ça va être scruté. Là.
Tout à fait. Et M. Carney, même pendant la campagne électorale, selon ce que me disent des sources à Ottawa, il travaillait sur un paquet de choses. Donc, pour les prochaines semaines, grande priorité, nommer son nouveau cabinet. C'est un exercice qui est quand même très délicat. Certains qui ont perdu, certains nouveaux arrivés, donc l'équilibre régional, récompense politique et compétences opérationnelles, j'espère. Il doit choisir une date pour la reprise des travaux parlementaires. Ce que j'entends, c'est que le Parlement va revenir au mois de mai, le plus tôt que possible.
Okay.
Il doit rédiger son premier discours du trône, qui va définir les grandes lignes de son mandat, déposer un budget fédéral. Est-ce que M. Champagne sera renommé au ministère des Finances? Parce que le prochain budget fédéral est très important. Il doit ancrer son programme économique. Et aussi, on va voir, on va comparer la plateforme et le budget, c'est-à-dire est-ce qu'il va tout prendre de sa plateforme électorale. Et finalement, en coulisses, le premier ministre gère aussi les relations internationales qui sont cruciales. D'un bord, relations Canada-États-Unis, de l'autre bord, Union européenne, le reste du monde, pour trouver de nouvelles alliances, forger de nouvelles alliances et réduire la dépendance du Canada des États-Unis. Hier, il s'est entretenu avec Donald Trump.
Oui.
Cette fois-ci, on ne sait pas encore ce qui s'est dit. Tu te souviens, la dernière fois, il y a eu une fuite de l'échange privé qui avait contredit les déclarations publiques de M. Carney. Ça a provoqué un véritable embarras pendant la campagne électorale. En passant, la source de la fuite a été identifiée.
Oh.
Et si je comprends bien, il y aura des conséquences. Une chose avec Mark Carney, il ne plaisante pas. Aussi, il est fort probable que d'ici la fin du mois de mai, il y a une rencontre one-on-one avec Donald Trump. Et au mois de juin, le sommet du G7, à partir du 15 juin, si ma mémoire est bonne, le premier ministre sera l'hôte du G7 en Alberta, où bien sûr on va aussi accueillir M. Trump.
Dimitri, est-ce que c'est une bonne idée d'espérer une renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, là, qui a changé de nom? Parce que il y a des analystes qui disent non, on renégocie rien, on attend que M. Trump souffre politiquement de toutes ces décisions stupides, et après ça, on verra si on veut négocier.
C'est exactement le point principal qui a été soulevé hier, apparemment, lors d'une rencontre. En même temps, ces deux doivent se rencontrer en oui. personne. M. Carney, fin négociateur, comme il nous dit, doit rencontrer Donald Trump et prendre le pouls. Un bon négociateur, au-delà de ses stratégies, est capable de prendre le pouls de son adversaire, dans ce cas-ci, Donald Trump. Est-ce qu'il y aura ou est-ce qu'il n'y aura pas une renégociation? On ne le sait pas encore.
OK, je veux qu'on parle du NPD en terminant, Dimitri, parce que c'est la pire élection de l'histoire du NPD. Le chef a perdu, on est réduit à 7 députés. Et là, tu as appris que quelqu'un pourrait être intéressé à briguer le leadership du parti de gauche.
Tout à fait, tout à fait. On me souffle à l'oreille que Ruth Ellen Brosseau est en train de faire des appels parce qu'elle est intéressée. Ruth Ellen Brosseau, qui a été élue pour la première fois en 2011, Berthier Masquinongé.
Candidate poteau.
C'était la candidate, puis je veux être clair là-dessus, c'était la candidate qui, pendant la campagne électorale, était à Las Vegas.
Oui.
Une fois élue députée, c'était une des plus travaillantes.
Elle est devenue extraordinaire, semble-t-il, comme députée.
Exact. Donc, on va voir. Peut-être on peut l'appeler.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Dimitri. Prends soin de toi. On se reparle demain.
Salut, à demain.
7h. Météo.
Dégagement et alternance soleil et nuages aujourd'hui. Maximum 9 degrés. Ça restera dégagé pour ce soir et cette nuit avec des vents du nord-ouest à 20 km/h. Minimum plus 1. Retour du plein soleil pour jeudi pour un maximum de 10 degrés.
Fréquence bleue. Siki FM 90.3. Pour tout savoir ce qui se passe dans notre région, des nouvelles fraîches, des perspectives claires, une station. Siki FM. Notre engagement, vous livrer l'information sans compromis. Avec François Tremblay, c'est Bonjour Montmagny.
7h14 sous le soleil. Est-ce qu'on a gagné un degré? Allons voir. Ou peut-être deux. Non, on a perdu un. Présentement, 5. Mais on devrait atteindre un 6 degrés aujourd'hui. 9 avec 40 % de risque d'averse. Mais ça, c'est chose du passé puisqu'on est dans la période de